la négation comme une arme, la prétérition. Il peut arriver aussi que la tournure négative soit à notre plus grand avantage. C'est notamment le cas lorsque nous souhaitons transmettre un message très dur sans pour autant passer pour un agresseur. Il suffit pour cela d'insérer innocemment, après une négation, un mot atrocement péjoratif. Je ne dis pas que vous êtes incompétent. Je m'étonne simplement que le projet avance si lentement. Formellement, nous n'avons pas dit ce que nous ne devions pas dire. Les connotations suffisent à faire passer l'idée. En rhétorique, c'est ce que l'on appelle une prétérition, un procédé consistant à énoncer un argument tout en prétendant y renoncer. Étude de cas. Porte-parole du gouvernement, j'ai été invité à débattre avec une députée de l'opposition sur le plateau d'une chaîne d'information. Il se trouve que, quelques mois plus tôt, j'ai été accusé, à tort, d'avoir commis un abus de bien social, à l'époque où j'étais président d'une grande association. Les procédures judiciaires n'ayant pas encore abouti, j'espérais qu'il serait délicat pour mon adversaire d'exploiter cette information. C'était sans compter sur son habileté. Un sourire narquois aux lèvres, elle me lance « Vous avez, cher monsieur, des mots très durs à l'égard des petits délinquants. Il est ironique que vous soyez vous-même au cœur d'une affaire d'abus de bien social. Alors, bien sûr, je ne vous accuse pas d'être un voleur. Je respecte la justice. Attendons qu'elle se prononce. Je dis juste que nous avons besoin de retrouver de l'exemplarité à tous les niveaux. » Je bouillonne, rougis et choisis de changer de sujet. Décryptage, nous venons de subir une attaque odieuse. De cette phrase, les auditeurs ne retiendront probablement que le mot « voleur ». Il s'agit d'une mise en cause extrêmement violente. Mais dans la mesure où, formellement, aucune accusation n'a été prononcée, il est très difficile de nous en protéger. Si nous tentions de protester, notre interlocutrice aurait beau jeu de répondre quelque chose comme « Mais vous avez parfaitement raison. Je le répète, je n'ai pas dit que vous étiez un voleur. » Non seulement nous n'aurions pas esquivé l'attaque, mais en outre, nous donnerions l'impression de pinailler à l'excès. Telle est précisément la force de la prétérition. En faisant mine de renoncer à l'argument qu'elle énonce, elle coupe toute possibilité de s'en défendre. Elle permet ainsi de bénéficier à la fois de l'efficacité de la parole et de l'innocence du silence. C'est, nous l'avons vu, la définition même de l'implicite. Ici, notre seule possibilité de réagir aurait consisté à révéler au grand jour cette stratégie pour pouvoir la dénoncer. Une démarche particulièrement fastidieuse, mais potentiellement efficace. Chère madame, ce que vous venez de faire est indigne. Évoquez l'air de rien une affaire en cours de jugement. Insinuez sans oser vraiment le dire que je puisse ne pas être honnête. Mais croyez-moi, personne n'est dupe. Tout le monde voit bien que votre mesquinerie n'est qu'une tentative désespérée de camoufler le vide de vos propositions politiques. Les négations néfastes ne sont donc pas nécessairement néfastes pour nous-mêmes. Bien utilisées, elles peuvent être retournées contre un adversaire. Le procédé est perfide, certes, mais souvent efficace. Il nous laisse une nouvelle fois seuls face à notre éthique. À nous de décider si nous désirons y avoir recours. Mais quel que soit notre choix, nous devrons de toute façon nous préparer à y faire face chez nos interlocuteurs. Les négations néfastes, un poison du quotidien. Précisons enfin que ces considérations sont loin de ne concerner que la communication stratégique dans les domaines professionnels et politiques. Elles s'appliquent également, et peut-être même avant tout, à la rhétorique du quotidien. Pensons à toutes ces phrases que nous prononçons si souvent. C'est pas mal, c'est pas bête, n'aie pas peur, ne stresse pas, il n'y a pas de problème, n'oublie pas tes clés. Par les connotations qu'elles véhiculent, ces phrases risquent de produire l'effet inverse de celui recherché. Que notre professeur nous félicite d'un « c'est pas mal » et nous avons l'impression que nous aurions pu faire mieux. Qu'un ami tente de nous rassurer avec « n'aie pas peur » et nous sentons déjà la crainte affluer. Tous les jours, sans le savoir, sans le vouloir, nous nous influençons ainsi mutuellement. Parfois pour le meilleur, souvent pour le pire. Il serait pourtant si simple de tourner chacune de ces phrases au positif. C'est bien, c'est intelligent, tout va bien se passer, cela me convient bien, pense à prendre tes clés. De telles formules sont autrement plus engageantes. La connotation des termes permet cette fois de redoubler, plutôt que contrarier, le cœur de notre message. Gardons toujours en mémoire l'impact considérable que peuvent avoir nos paroles sur nos proches. Les mots que nous proférons déterminent notre perception du monde. Il ne tient qu'à nous de la réenchanter. Voilà un bon exemple de ce que la rhétorique peut, au quotidien, nous apporter. 4. Jouer sur les valeurs chiffrées. Qu'est-ce qui est le plus lourd, un kilo de plumes ou un kilo de plomb? Voilà un piège dans lequel tous les enfants sont tombés. D'un point de vue physique et mathématique, la bonne réponse ne fait aucun doute. Un kilo, quelle que soit la matière dont il est constitué, c'est toujours un kilo. Il en va différemment, en revanche, dès lors que nous envisageons cette question sous l'angle de l'argumentation. En termes rhétoriques, aussi étrange que cela puisse paraître, un kilo de plomb est infiniment plus lourd qu'un kilo de plume. Dès lors qu'il est question de valeurs chiffrées, nous en revenons une nouvelle fois à la distinction entre dénotation et connotation. Les dimensions. Première variable sur laquelle les oratrices et les orateurs peuvent jouer, les dimensions par lesquelles les valeurs chiffrées sont exprimées. Il existe en cette matière deux règles générales. La première, plus l'unité de mesure à laquelle nous nous référons est grande, et plus la valeur qu'elle désigne semble importante. Étude de cas. Manager au sein d'une grande entreprise, j'ai été nommé à la tête d'un projet compliqué. En réunion de direction, devant mes supérieurs, je me fais rassurant. Le travail avance bien. Il nous reste un an et demi, c'est encore beaucoup de temps. Je sais qu'en réalité, nous sommes en train de prendre du retard. Revenu dans mon service, je réunis donc mes équipes autour de moi. Bon, ça ne va pas. Il ne reste que 18 mois avant la livraison du projet. Si nous ne redoublons pas d'efforts dès maintenant, nous ne tiendrons jamais les délais. Décryptage. Un an et demi, cela paraît une éternité. 18 mois, cela semble être demain. En nous contentant de jouer sur l'unité de mesure, nous avons considérablement modifié les représentations associées à une même valeur de temps. À nouveau, la connotation des termes porte une large part du message. Notons que, pour accentuer l'effet produit, nous aurions pu être tentés d'employer avec nos équipes une unité plus petite encore, non pas 18 mois, mais 540 jours. Cela n'aurait toutefois pas été aussi efficace. Personne dans la vie courante ne parle en centaines de jours. La mesure serait devenue abstraite et aurait perdu sa connotation d'urgence. Cette remarque nous mène précisément à notre règle numéro 2. Les auditeurs perçoivent rarement la mesure des grands nombres. Dès que nous dépassons les valeurs que nous avons l'habitude de manipuler, il nous devient difficile de réaliser ce que les chiffres désignent réellement. Pour une oratrice ou un orateur habile, il y a là aussi une dimension à exploiter. Prenons un exemple. Lorsqu'ils communiquent autour d'une nouvelle mesure, les responsables politiques s'empressent souvent de préciser qu'elle représente un investissement de plusieurs millions d'euros. En tant que citoyens, nous nous laissons facilement abuser par de tels nombres. Des millions d'euros, c'est forcément beaucoup d'argent, n'est-ce pas ? Et pourtant, rapporté au budget de l'État, ce n'est rien. Pas même le début du commencement d'une goutte d'eau. Profitons-en d'ailleurs pour donner ici quelques repères utiles. À l'échelle d'un grand pays de l'Union européenne, si une décision politique se chiffre en millions d'euros, elle est de l'ordre du symbole. En dizaines de millions, elle reste modeste. En centaines de millions, elle devient substantielle. En milliards, on peut commencer à parler d'une véritable priorité. La précision. Deuxième variable sur laquelle les oratrices et orateurs peuvent jouer, pour utiliser à leur profit les valeurs chiffrées, leur degré de précision. Il existe là aussi deux règles simples, mais qui fonctionnent de manière contradictoire. La première, plus une donnée est précise, plus elle semble exacte. Prenons un exemple. Imaginons qu'une entreprise fabriquant de l'électroménager décide de communiquer sur la qualité de son assistance téléphonique. Elle commence par demander à un institut de sondage de réaliser une enquête de satisfaction auprès de ses clients. Une fois les résultats obtenus, se pose la question de savoir comment ils seront présentés dans les campagnes de publicité. 9 clients sur 10 sont satisfaits ou 92% des clients sont satisfaits. En termes statistiques, les deux options reviennent peu ou prou au même. Nous parlons de sondages qui sont, par nature, sujets à de grandes marges d'erreur. En revanche, en termes rhétoriques, les deux expressions charrient des représentations très différentes. Quand nous choisissons de dire 92%, nous donnons à notre discours l'apparence de la rigueur et de la scientificité. Aux yeux des auditeurs, il semblera plus sérieux et moins discutable. Or, dans les faits, la précision n'est en rien un gage de confiance. Il est possible de fournir des chiffres qui sont à la fois très précis et totalement faux. Ici encore, ce qui compte, ce sont les connotations. La précision suggère l'exactitude. Notons, entre parenthèses, que ces développements s'appliquent également à la psychologie de la négociation. Plusieurs recherches ont montré que, lors d'une transaction, si le premier prix annoncé est précis, mes honoraires sont de 1 435 €, plutôt que rond, mes honoraires sont de 1 400 €, il sera discuté moins ardemment par l'interlocuteur, aboutissant à un accord final plus avantageux. Pour autant, il ne faut pas perdre de vue la seconde règle. Plus une donnée est précise, moins elle est facile à appréhender. Les données complexes représentent, pour les auditeurs, un surcroît d'informations à intégrer. Ils auront ainsi plus de peine à manipuler un nombre décimal, 32,4%, plutôt qu'un arrondi, environ 30%. Ou, a fortiori, une approximation, près d'un sur trois. Pour les oratrices et les orateurs, c'est un élément à prendre en considération. Les données précises, si elles confèrent une apparence de rigueur et de sérieux à notre argumentation, la rendent également moins intelligible. Le risque, c'est de perdre en clarté ce que nous aurons gagné en crédibilité. Le bon réflexe est donc le suivant. Lorsque nous voulons faire preuve de compétence, nous utilisons la donnée la plus précise possible. Nous prenons soin, dans ce cas, de lui donner dans notre phrase une place secondaire et superflue. Nous aurons l'occasion d'y revenir. En revanche, lorsque nous manipulons une donnée cruciale pour notre raisonnement, mieux vaut la présenter sous la forme d'un arrondi, voire d'une approximation. Nous faciliterons ainsi la compréhension des auditeurs et augmenterons nos chances d'emporter leurs convictions. En tant qu'oratrice ou orateur, il est essentiel que nous maîtrisions à la perfection ce travail sur la précision et les dimensions. il va nous permettre de donner le plus d'impact possible aux valeurs chiffrées que nous utilisons. En tant qu'auditrice ou auditeur, en revanche, nous devons être particulièrement vigilants. Ne nous laissons pas impressionner par des séries de données et prenons une habitude simple lorsque nous sommes confrontés à des valeurs que nous avons du mal à estimer. Faisons le calcul. Trouvons des points de comparaison. Arrondissons au plus proche. Convertissons dans une autre unité de mesure. Bref, n'acceptons jamais de nous faire enfermer dans les connotations d'un nombre choisi pour convaincre. Si nous désirons conserver pleinement notre libre arbitre, nous ne pourrons nous épargner la peine de compter. Les mathématiques aussi participent de la rhétorique. 5. De la bataille des mots à la guerre des idées. Terminons en évoquant un cas particulier mais fondamental, la politique au sens large du terme. Il s'agit d'un domaine dans lequel le lexique possède une importance si cruciale qu'il fait l'objet d'une compétition sans merci. Parvenir à imposer les mots par lesquels les citoyens pensent spontanément à un sujet, cela revient à choisir les représentations et les images mentales qui vont ensuite structurer le débat. Il s'agit d'un avantage considérable. Prenons un exemple. Voilà 40 ans qu'il existe, dans le débat politique français, une lutte acharnée autour d'un mot bien particulier, celui par lequel sont désignés les impôts payés par les entreprises afin de financer la protection sociale. Les uns, classés plutôt à droite du spectre politique, parlent de charge sociale. Les autres, identifiés plutôt à gauche du spectre politique, préfèrent évoquer les cotisations sociales. Or, ce choix ne tient en rien du hasard. Il est directement lié aux représentations charriées par chacun de ces concepts. Parler de charge amène notre esprit à se focaliser sur le poids que ces impôts représentent pour les entreprises. Nous pensons alors naturellement à tous les emplois perdus, faute d'avoir pu être créés par des entrepreneurs volontaires, certes, mais écrasés sous la pression de l'État. À l'inverse, parler de cotisation nous ramène plutôt vers l'idée de partage et de solidarité. Nous songeons alors spontanément à l'importance de partager les richesses générées par les entreprises, afin qu'aucun citoyen n'ait à subir la misère pendant que d'autres se complaisent dans l'opulence. Dans un cas comme dans l'autre, la dénotation des mots est identique. Ils désignent chacun les mêmes impôts. Les connotations, elles, s'opposent radicalement. Or, et c'est le cœur du débat, ces représentations divergentes sous-tendent des propositions politiques concurrentes. Si c'est le mot « charge sociale » qui s'impose, il devient très difficile de proposer de les alourdir. Un fardeau n'est-il pas plutôt destiné à être soulagé? À l'inverse, si c'est le mot « cotisation sociale » qui prend l'ascendant, il devient délicat de demander leur allègement. La solidarité n'est-elle pas, après tout, une valeur cardinale de notre société? On le voit, ici, la lutte pour choisir les mots n'a rien de superficiel. Elle est au contraire au cœur même du combat rhétorique. Le camp qui parvient à imposer son lexique a de grandes chances ensuite de faire triompher sa politique. Prenons un autre exemple dans le monde du management cette fois. Longtemps, les personnes travaillant dans les grandes entreprises étaient appelées des employés. Progressivement, ce terme s'est transformé jusqu'à ce que l'on parle plutôt aujourd'hui de collaborateurs. En apparence, un changement bien anodin. Un effet de mode, rien de plus. La dénotation est exactement la même dans les deux cas. Et pourtant, les connotations sont, elles, bien différentes. S'il existe des employés, c'est qu'il y a un employeur. De lui-même, ce mot donnait à voir le rapport de force inhérent au travail salarié. D'un côté se trouvent ceux qui sont propriétaires des moyens de production, de l'autre, ceux qui louent leur force de travail, et entre les deux, un contrat qui est toujours le résultat d'un âpre bras de fer. En revanche, que se passe-t-il s'il n'y a plus aucun employé, mais seulement des collaborateurs ? Les représentations sont soudain très différentes. L'entreprise devient un monde coopératif verdoyant, où tous les individus travaillent ensemble à la réalisation d'un grand projet commun. Or, là aussi, ce changement de lexique sous-tend en réalité un combat idéologique. Dès lors que la tension intrinsèque au salariat disparaît, remplacée par l'idée de collaboration, comment continuer de placer la lutte au cœur des relations de travail ? Face à un employeur, il est possible de militer, de revendiquer, de faire grève même. Mais pourquoi voudrions-nous faire subir cela à une personne avec laquelle on collabore ? Le choix des mots, une nouvelle fois, est tout sauf anecdotique. En imposant le terme « collaborateur » plutôt que « employé », les théoriciens du management sont parvenus à leur fin, que l'on peut formuler de deux manières : pacifier les relations humaines dans l'entreprise ou entraver la possibilité de lutter pour l'amélioration des conditions de travail. Chaque lecteur jugera laquelle de ces deux connotations lui convient le mieux. On le voit, à l'échelle du débat public, remporter la bataille des mots, c'est déjà prendre un ascendant majeur dans la guerre des idées.